Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Comment retrouver une sagesse perdue quand on en a un besoin si vital? Comment, lorsqu'on est en exil, retrouver le royaume? Comment concilier raison et révélation et faire ainsi de la philosophie son mode de vie et du texte sacré son guide intérieur? Comment soigner les maladies de l'âme et du corps et au-delà, les maladies qui frappent le corps social dans son ensemble en des temps troubles et troublés? Je ne parle pas de notre époque, en tout cas en apparence. À toutes ces questions, le grand philosophe juif du XIIe siècle, Moïse Maïmonide, a inlassablement tenté de répondre dans sa vie et dans son œuvre, étape après étape, ouvrage après ouvrage. Bien qu'il ait vécu en un temps qui peut nous sembler très lointain, Maïmonide est notre contemporain, car l'ardeur de son questionnement peut, devrait être la nôtre, et son exigence de pensée peut nous aider à traverser nos doutes et féconder nos contradictions. Pour évoquer cette figure passionnante et nous guider sur ses pas, nous sommes ce soir en compagnie de Géraldine Roux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée juive médiévale et directrice de l'Institut Rachi à Troyes. Vous avez déjà publié au CERF en 2010 un ouvrage consacré à Maïmonide et vous nous revenez cette année avec Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse, très joli titre je dois dire, publié au Seuil dans la série Voix spirituelle. Ce qui m'a frappé en commençant à vous lire, Géraldine Roux, c'est que pour vous, Maïmonide n'est pas juste un auteur parmi d'autres que vous étudiez d'un point de vue académique, mais une source d'inspiration. Son œuvre a été pour vous une expérience de pensée, et au-delà du travail d'érudition qui est le vôtre, c'est à cette expérience-là que vous invitez votre lecteur et à laquelle nous invitons ce soir nos auditeurs. Alors, pouvez-vous, pour commencer, nous dire, Géraldine Roux, comment vous avez rencontré Moïse Maïmonide et d'où vous vient cette passion pour le personnage, mais peut-être encore plus pour ce qu'il a à nous proposer comme expérience de pensée?
Effectivement, en fait, cette rencontre a été une rencontre par hasard. Alors, on ne sait pas souvent, en fait, est-ce qu'il y a du hasard ou pas. Et c'était à l'université d'Aix-en-Provence. J'étais étudiante en philosophie et je venais d'un milieu tout à fait laïque, voire anti-religieux. Enfin, je venais de très loin puisque je venais des horizons de Spinoza et de Nietzsche. Par hasard, en fait, j'ai raté l'inscription à mes options en deuxième année. Et donc, je ne pouvais plus m'inscrire ni au grec, ni à quoi que ce soit d'autre, et il ne me restait que philosophie de la religion. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que je suis arrivée du haut de tous mes préjugés. Et d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant parce que souvent, on se dit, on est en philosophie, Descartes, Spinoza, contre les préjugés, et finalement, la philosophie rationaliste elle-même, si elle est comprise de manière un peu fermée, peut devenir un préjugé. Et du haut de tous mes préjugés adolescents, je suis allée à ce cours. Et là, je me suis aperçue que c'était totalement faux. Je veux dire, c'était au contraire ce que je cherchais depuis que j'étais en terminale. J'ai trouvé une voie d'accès à travers cette pensée de Maïmonide, qui, au lieu de refermer le sens, l'ouvrait depuis des contradictions. Et donc, le soir même, je me précipitais dans la première librairie aixoise. J'ai acheté le guide des égarés au guide des perplexes. Et depuis, voilà, il ne me quitte plus.
Mmh. Oui, c'est ça, donc le guide... Ce qui a été traduit par le guide des égarés traduction à laquelle vous préférez le guide des perplexes. On va y revenir parce qu'en fait, ce sera le fil rouge de notre émission parce que c'est le fil rouge de votre livre et je crois en général de votre réflexion sur ce personnage que peut-être il nous faut d'abord resituer pour nos auditeurs.
Alors Maïmonide est né en 1138 à Cordoue et il est mort en 1204 à Fausta près du Caire. Donc il a vécu en fait en Andalousie et il a beaucoup voyagé. Alors souvent en fait évidemment il ne s'agissait pas de voyage touristique mais de fuir les persécutions parce que il a vécu à une période très troublée. Je crois que c'est ça qui est profondément marquant dans sa vie. Il est né dans une Andalousie qui avait perdu son âge d'or, si on peut dire. Puisque l'âge d'or du temps des Fatimides, en fait, était perdu. Et puisque la dynastie, le royaume s'est morcelé en de multiples principautés. Et les Almohades, en premier les Almoravides, et ensuite les Almohades ont envahi l'Andalousie du Sud. Alors, les Almohades, c'était pas du tout cette dynastie des Fatimides qui ont permis l'essor de la culture, de l'architecture, de la poésie, de la littérature. Mais les Almohades avaient une lecture beaucoup plus stricte du Coran, très juridique, voire quasi juridique, et d'une juridiction qui a été inventée par le fondateur almohade, qui était Ibn Tumar.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, c'est quelque chose d'assez brutal comme système totalement inventé, encore une fois, qui n'est pas ni chiite ni sunnite.
Oui, et qui est en contradiction complète avec ce qu'avait été effectivement l'Andalousie, cette Andalousie heureuse d'une certaine façon.
C'est ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas de fantasmer cette Andalousie heureuse, mais enfin, en tout cas, il y avait une réelle cohabitation plus ou moins paisible. Mmh. Et là, tout a éclaté. Donc, lorsque Maïmonide naît, il n'y a plus d'école juive, il n'y a plus d'académie en Andalousie qui pourtant était porteuse d'une nouvelle science, notamment de la philologie et de la philosophie. Et ça va être une nostalgie très profonde. Ça va marquer Maïmonide toute sa vie. Cette nostalgie, en fait, d'une science qui existait et qui, pour lui, n'existe plus, qui a été détruite. Et ils vont errer, en fait, en Andalousie pendant quelques années. Ensuite, le père de Maïmonide décide, avec sa famille, de partir au Maroc. Ça aussi, ça va être très intéressant sur la manière dont Maïmonide lui-même va comprendre cette nouvelle persécution.
Oui, parce que c'est très étrange. On se dit, c'est un peu que ça me fait penser un peu aux Juifs qui ont émigré de Pologne ou d'Allemagne en France, quoi. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils allaient trouver là une protection, et finalement, l'étau va quelques années plus tard se resserrer autour d'eux. Et ils vont passer de Caraïbes dans Scylla, en quelque sorte.
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est très étonnant, parce que je m'étais un peu interrogée. Je me dis, comment est-ce que le père de Maïmonide a pu prendre une telle décision? Peut-être que cette décision était précisément ultra-rationnelle. C'est ça que tout à l'heure, je parlais de l'ultra-rationalisme qui conduisait à une fermeture. Est-ce que là, il n'y a pas eu quelque chose comme cela? C'est-à-dire qu'il s'est dit, les Almohades ont envahi l'Andalousie. Donc, en tant qu'envahisseurs, ils sont très, très violents. Mais par contre, peut-être que dans leur pays d'origine, ils sont tout à fait, c'est un gouvernement stable, donc beaucoup plus ouvert. Sauf qu'il n'a pensé en temps, puisqu'il a toujours vécu sous les Fatimides, donc il l'a pensé en termes de raison. Il existe encore une forme de raison et de raison ouverte dans leur politique.
Oui,
cela dit, c'était pas le cas, en fait.
C'est vrai dans un premier temps, quand même. C'est-à-dire que Fès a aussi été une ville où les communautés juives ont pu vivre à nouveau dans une paix relative.
Mais sous les Almoravides.
Ah d'accord. Donc, mais même les premières années, donc ils n'ont pas bénéficié. Ça a toujours été difficile.
Ça a été effectivement du temps du premier sultan de la dynastie almohade, il y avait à peu près une paix relative. C'est sous son fils qu'il va y avoir un durcissement de la politique encore plus violent et l'étau va se refermer sur les communautés juives du Maroc.
Oui, voilà. Et ce sera la question, c'est vraiment la conversion ou la mort. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très brutal.
C'est pas juste des petites
oppressions. C'est vraiment une...
Par exemple, les Juifs de Grenade vont se révolter et ça va être complètement... Ça va terminer dans un bain de sang, quoi. Je veux dire, la communauté va être massacrée.
Et donc, ça, c'est très important, effectivement, vous insistez dessus, parce que ça va déterminer aussi la pensée politique de Maïmonide. L'idée de se révolter et lui est tout à fait détestable, parce que la révolte mène au massacre, parce que peut-être les communautés juives n'ont pas la force face aux armées, tout simplement. Ça m'a quand même aussi beaucoup fait réfléchir, je fais une parenthèse ici, Géraldine Roux, à ce qu'on a pu dire aussi de ce qui s'est passé pendant la guerre. Beaucoup de gens ont dit, mais comment ça se fait que cette communauté juive s'est laissée emmener dans des camps? Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas révoltés? Peut-être qu'il y a une continuité là, c'est-à-dire cette idée, cette mémoire que quand on se révolte, on est assassiné, tout simplement.
Il y a différents types peut-être aussi de révolte, parce que dans le cas de Maïmonide, c'était pas non plus quelqu'un qui se laissait faire.
Non, mais c'était pas
mais
sur
la
un
révolte,
plan, oui.
Pour lui, la révolte passe par l'esprit et non pas par les armes. Quand on n'est pas assez fort pour pouvoir prendre les armes. Donc il y a une sorte de calcul tout à fait rationnel des risques et des gains. Et à tort à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il a constaté, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révolte, ça s'est terminé dans un bain de sang. Mmh. Et les révoltes, en général, elles étaient toujours menées par des pseudo-messies.
Voilà.
C'est-à-dire des hommes qui se levaient en disant, voilà, c'est moi le messie, je viens rétablir la justice. Ils faisaient un ou deux miracles en s'appuyant plus ou moins, selon Maïmonide, sur la superstition et l'ignorance des communautés. Ils les menaient, ils les armaient. Donc il armait des gens qui n'étaient pas du tout formés à la guerre, face à quand même des armées de métiers en face, et ça conduisait inévitablement au massacre. Et Maïmonide va en quelque sorte, et ça je trouve l'audace de Maïmonide, il va se battre un peu sur deux fronts. D'un côté, comment vivre dans un pays persécuteur, tout en restant juif, tout en continuant à pratiquer, mais en même temps en abjurant verbalement sa foi. Donc, est-ce qu'une conversion forcée est une conversion totale ? Ce sont toutes ces questions qui animent les communautés du Maroc. Et elles vont d'ailleurs poser ces questions-là au Gaon de Bagdad, qui était l'autorité centrale de l'époque, et qui va leur répondre de manière un peu désinvolte, en disant « mais de toute façon, le fait même de se convertir, c'est déjà une abjuration ». Et Maïmonide lui-même va faire une réponse qui ne lui a pas été demandée. Donc ça, c'est très courageux et c'est très étonnant. Parce qu'en règle générale, quand il y a une réponse qui est donnée par un gaon,
l'autorité centrale,
un autre rabbin, surtout tout jeune, ne va pas répondre publiquement à cette lettre et surtout la contredire. Et pourtant, c'est ce que fait Maïmonide. Donc il y a une forme de révolte quand même. Mais qui ne passe pas par les armes physiques.
Oui, c'est ça. Et alors, ça, c'est très intéressant parce qu'il le fait, il est très jeune. Donc, il a déjà une idée. Bon, il a aussi une expérience de vie. Il faut dire, il est déjà parti en exil. Il a déjà vu ce que c'était que d'être oppressé, opprimé. En même temps, c'est déjà, quand même, déjà un très grand savant. Enfin, c'est déjà quelqu'un qui a un vrai fond à la fois philosophique et de connaissance de la tradition des textes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, à nouveau, je vois beaucoup d'écho en vous lisant avec notre époque, c'est que le fameux Gaon dit, il vaut mieux être martyr qu'abjurer sa foi.
Oui.
Et donc, il y a une profonde réflexion sur la question du martyr chez Maïmonide, qui me semble-t-il, est très utile à reconsidérer à notre époque, où on parle tellement de martyr. Alors, je voudrais signaler aussi, Géraldine Roux, qu'en vous lisant, j'ai beaucoup pensé aux enjeux qui se posent aujourd'hui, aux difficultés qui se posent aujourd'hui à l'islam, et que par moments, on aurait pu remplacer judaïsme par islam, et on aurait trouvé exactement les mêmes problématiques. C'est d'autant plus intéressant de lire Maïmonide donc, aujourd'hui. Donc, mais revenons sur cette question du martyr. Que nous dit Maïmonide de la question du martyr, dont on se rend compte qu'elle s'est posée à la communauté juive à cette époque-là?
Il y a un spectre dans la communauté juive, c'est le spectre de Masada. C'est-à-dire, lorsque Jérusalem a été envahie et que le temple a été détruit, eh bien, il y a eu un groupe de révoltés qui se sont réfugiés à Masada et qui, jusqu'au bout, en fait, ont combattu les Romains. Et lorsque les armées romaines ont pu enfin entrer dans la ville, ils se sont aperçus qu'il y avait eu un suicide collectif. Ils ont préféré mourir plutôt que d'être livrés aux mains des Romains, plutôt que d'abjurer en fait leur foi, leur pratique, et de devoir composer avec. Et je pense que c'est cela aussi la grande question de Maïmonide. Il se dit, mais que veut dire composer avec? Est-ce que composer, est-ce que aller dans les nations, même difficiles, est-ce que pour autant cela veut dire lâcher ses principes? Est-ce qu'on doit vivre replié sur soi-même, une communauté qui ne vit et ne pense que par elle-même et qui devient, pour le coup, pour employer des mots un peu contemporains, communautaire?
Voilà.
Ou alors, est-ce qu'on prend le risque de l'ouverture? Mais l'ouverture, jusqu'à quel point? Parce que si on est dans une ouverture totale, on peut aussi courir le risque de l'absorption.
Bien sûr.
Et encore une fois, avec cette difficulté des persécutions. Donc il pose cette question très clairement, Torah à l'appui. C'est ça la grande force de Maïmonide, c'est qu'il dit arrêtons de lire les commentaires de commentaires de commentaires. C'est le cas des Géonimes, donc du Gaon de Bagdad, et de ses prédécesseurs également. Il dit qu'il n'arrête pas en fait de commenter la Torah, mais on finit par perdre de vue le texte lui-même, puisqu'on ne se réfère plus qu'aux commentaires du texte et non plus au texte même. Donc il y a quelque chose de tout à fait réformateur chez Maïmonide, c'est réformer sa vue, tout simplement en arrêtant de regarder les commentaires et en se reportant à la Torah. Et pour lui, le martyr est absolument inacceptable, parce que la Torah enjoint de préserver la vie. Donc, en reprenant en fait une base de vie, non plus de mort, puisque le martyr c'est ni plus ni moins que prôner la mort, en reprenant des bases de vie, comment pratiquer la Torah sur ces bases de vie sans pour autant la perdre de vue elle-même? Et donc c'est toute cette lettre, sa lettre sur la persécution, articule toutes ces questions. Depuis, comment préserver la vie sans pour autant abjurer sa foi. Et il va s'appuyer sur les exemples de grands sages du Talmud, dont également même Rabbi Akiba.
Et au fond, c'est en plein XIIe siècle, nous avons affaire à une doctrine de la liberté qui me semble tout à fait révolutionnaire, Géraldine Roux, pour cette époque-là. Je veux dire, on a quand même l'impression que c'est un homme qui construit une géographie de la liberté dans un contexte qui est pour le moins pas tout à fait en faveur de la liberté, dirons-nous.
Ah oui, absolument. C'est d'ailleurs très fort de sa part. C'est-à-dire qu'il est, oui, c'est, j'aime bien votre expression, une géographie de la liberté. Parce que c'est une géographie politique, politique vis-à-vis de pouvoir en place, donc musulman, politique vis-à-vis de l'autorité centrale du judaïsme tel qu'il le connaît, et également la liberté intérieure. C'est-à-dire comment retrouver le sens de la Torah en se libérant des commentaires qui finissent par l'étouffer. Mmh. Et cela, il va vraiment le développer dans ses deux œuvres majeures que sont le Mishneh Torah d'un côté et le Guide des Perplexes beaucoup plus tard de l'autre.
Oui, alors quand je parle de ça, c'est aussi pour dire que à nouveau ça en fait un penseur. J'aime pas cette expression, mais enfin un penseur moderne, en tout cas un penseur utile pour nous aujourd'hui.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette géographie de la liberté, il ne pourra vraiment la rédiger que dans un pays hospitalier.
Bien sûr.
Il dit bien que dans un pays non hospitalier, on ne peut plus rien faire. Et donc dans ce cas-là, mieux vaut fuir plutôt que de se tuer ou être mourir en martyr ou alors d'abjurer. La meilleure solution, c'est celle la plus raisonnable, c'est celle de fuir tout simplement. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc il était au Maroc pendant toutes ces années. Ils vont partir. Alors, en terre d'Israël, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit, parce que là, ils sont pris en tenaille entre les armées chrétiennes et les armées musulmanes de Saladin. Et ils vont, au bout de quelques mois, le père de Maïmonide mourra, mais Maïmonide et son frère David vont partir en Égypte. Ils vont accoster, en fait, en Égypte en 1166, à Alexandrie, et ils vont s'établir au Caire, où Maïmonide finira ses jours jusqu'en 1204.
Dans une relative paix, puisque là, il sera même le médecin
de la cour de Saladin, et puis il sera reconnu de part et d'autre. Donc là, je veux dire, ça sera, oui, une relative paix. Il y aura de grandes querelles, notamment avec le Gaon de Bagdad, mais des querelles internes au judaïsme, mais une relative paix, et surtout des terres hospitalières pour pouvoir penser en paix. Parce que pour lui, on ne peut pas penser ou écrire ou méditer ou si, en fait, il n'y a pas une certaine minimum vital assurer la survie du corps, tout simplement.
Bien sûr, oui, tout simplement un sentiment de sécurité.
Les discussions du soir. Les discussions du soir, Lélie Anvar.
C'est vrai que ce qui est très fort dans ce que j'appelle presque une doctrine de la liberté chez lui, c'est qu'elle est fondée fondamentalement sur l'exercice de la raison. Alors, Maïmonide, c'est vraiment le grand défenseur de la raison qu'il va tenter de réconcilier avec la révélation. C'est aussi ce qui fait son originalité et sa force. Et à nouveau, ce qui fait que sa proposition, aujourd'hui, quand on a une telle... quand on a l'impression que certaines communautés pensent la raison et la révélation comme deux irréconciliables, donc ça je pense ça peut être d'une extraordinaire utilité, quelles que soient les communautés dont il est question. Hein. Je ne vise personne en particulier, Géraldine Roux.
Oui, et alors ce qui est très intéressant dans ces deux œuvres, en fait, Mishneh Torah d'un côté et Guide des Perplexes de l'autre, c'est que ce sont deux exercices différentiels de la raison. C'est-à-dire que il va rédiger. Alors il commence à rédiger son Mishneh Torah au Maroc. Il le termine en Égypte. Il l'écrit en hébreu. Alors pourquoi écrit-il ça? Alors Mishneh Torah, c'est la répétition de la loi et c'est ni plus ni moins qu'une compilation de tous les commandements de la Torah et depuis aussi leur explication talmudique qu'il va classer de manière thématique, mais sous couvert de racines philosophiques. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois, il va reprendre tous les commandements et en donner l'idée générale. Et alors, d'un côté, ça va vraiment mettre très en colère beaucoup de rabbins en disant, mais il est en train de clore le sens. C'est comme s'il faisait une œuvre systématique, mais un système depuis la raison philosophique.
Qui donc ouvre d'un autre côté. C'est-à-dire, ça ferme d'un côté, mais ça ouvre de l'autre.
Et qui va ouvrir de l'autre. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que le Gaon qui était capable de naviguer dans le texte. Maïmonide, lui, veut offrir un guide portatif de la Torah à toutes les communautés pour que les rabbins puissent dans leur puissent pendant les offices ou pendant les fêtes, lorsqu'ils doivent donner aussi des réponses concrètes à leur communauté, pouvoir très rapidement en 5 tomes naviguer dans le texte et pouvoir trouver les réponses sans avoir à se référer à une autorité centrale. Mmh. Donc d'un côté, oui, bien sûr, il va fermer d'un côté dans le sens où il va donner des éléments concrets, des directives, mais des directives pour libérer les rabbins des communautés de l'emprise du pouvoir central de Bagdad. Alors ça, c'est le premier aspect. Qui va être longuement critiqué, mais énormément aussi suivi par beaucoup de rabbins qui vont trouver vraiment ce Mishneh Torah libérateur. Et de l'autre côté, beaucoup plus tard, il va écrire le Guide des Perplexes, qui lui s'attache à retrouver les racines de la Torah, qui pour Maïmonide ont été oubliées parce qu'on a perdu le sens réel de la Torah, pour ne s'en tenir qu'au sens d'exégèse littéraliste qui, là, pour le coup, clôt le sens. Donc, tout le but est de réouvrir le sens et de retrouver une sorte de souffle dans la Torah à travers la réinterprétation de ces images pour renaviguer dans ce texte qui, pour Maïmonide, a été complètement étouffé par les multiples interprétations depuis des siècles.
Oui, et alors lui, il a quand même une interprétation à caractère philosophique, même si ça pose problème, puisqu'évidemment la philosophie se fonde sur la raison. Mais justement, il prétend pouvoir concilier justement ce travail sur le texte sacré et le travail de la raison philosophique. Et cette réconciliation, elle se base sur l'idée que finalement, l'une et l'autre activité ont pour but l'acquisition de la sagesse. Et je dirais que peut-être le point de jonction entre les deux, pour lui, est cette idée de sagesse. Et il va se faire se réconcilier la sagesse antique avec la sagesse des sages de la Torah, justement, en montrant qu'au fond, il n'y a pas de solution de continuité en réalité, sur le plan humain, bien sûr. Oui. Géraldine Roux.
Oui, effectivement. Et pour lui, cette réconciliation est toujours interne à chaque savant. Et il ne propose pas une réconciliation générale en donnant des recettes de cuisine pour réconcilier la foi et la raison, mais il va mettre le savant de son temps face à ses propres contradictions. Et c'est peut-être là la force du guide des perplexes, donc qui s'adresse à des savants qui sont perplexes, c'est-à-dire des gens qui doutent et qui sont paralysés par leurs doutes parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent uniquement appareiller vers la raison philosophique et abandonner leurs racines religieuses, ce qui est une perte d'identité énorme, enfin une sorte de saut impossible. Et en même temps, ils ne peuvent pas non plus continuer à pratiquer leur religion de manière traditionnelle après avoir découvert le doute philosophique. Donc depuis cette paralysie, Maïmonide veut leur donner en fait... en tant que médecin, il veut les sortir de leur paralysie. Et donc il va prendre au sérieux ces contradictions, donc il va mettre en place toute une série de contradictions, par exemple le débat sur l'éternité ou la création du monde, les différentes doctrines sur la providence, la question des anges ou des attributs divins. Donc tout ceci, à chaque fois, il va traiter ces différentes questions de manière contradictoire. Il met en place ces contradictions. Par exemple, les philosophes disent « le monde est éternel », les religieux disent « le monde est créé ». Qui croire ? Eh bien, il dit « c'est là l'erreur ». Notre erreur est de croire que c'est de considérer le problème en termes de vérité ou de fausseté. Donc, c'est des contradictions logiques. Il faut sortir de cette logique qui, pour lui, est réductrice et plutôt le considérer comme ce problème, comme des divergences. Et là, il y a une vraie influence, on n'aura peut-être pas trop le temps d'en discuter, influence de la théologie juridique même de l'islam.
Oui, oui. Alors, allons-y, parce que c'est effectivement une question que je voulais vous poser. C'est qu'on a quand même... En lisant le fameux guide des perplexes, dont vous allez nous dire pourquoi vous préférez qu'on l'appelle le guide des perplexes, puisque c'est en fait écrit en arabe, on a vraiment l'impression en le lisant qu'il y a d'ailleurs une très grande différence entre ce texte-là et la Mishneh Torah dont vous nous avez parlé tout à l'heure, à savoir qu'on passe de quelque chose qui est vraiment spécifiquement ancré dans la tradition hébraïque, et je dis exprès hébraïque parce que c'est pas que la religion, c'est aussi la langue, à quelque chose qui va s'énoncer en langue arabe et qui par conséquent sera profondément irrigué par les lectures et la très ample connaissance que Maïmonide avait en particulier de la philosophie arabe. Alors, il se nourrit probablement plus de la philosophie arabe que de la théologie musulmane, mais vous allez nous éclairer là-dessus, Géraldine Roux.
Oui et non, en fait. Sous ces temps-ci, il y a de grands débats, en fait, au niveau des chercheurs maïmonidiens qui pensent qu'il y a une réelle influence de l'aspect légal de l'islam.
D'accord.
Donc, c'est un grand débat.
Ça reste ouvert.
Je me permettrai pas, quelques minutes, de prendre partie.
Bien sûr.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le Mishneh Torah, souvent, on a tendance à opposer en disant, il y a le Mishneh Torah qui est religieux et le guide des perplexes qui, lui, en fait, est philosophique, écrit en arabe et non pas en hébreu. Mais je pense que l'un comme l'autre peuvent être lus en miroir l'un de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que le Mishneh Torah est le versant juridique de ce qui est le versant philosophique dans le guide des perplexes. Mmh. Mais c'est une seule et même raison qui irrigue et l'un et l'autre.
Mais pourquoi être passé de l'hébreu alors ? Pourquoi dans un cas c'est hébreu, dans l'autre cas c'est en arabe ?
Parce que en fait, le Mishneh Torah est écrit pour les liturgies, les communautés et les réponses religieuses qui sont données par des rabbins.
En somme, c'est écrit pour les rabbins.
Mais l'un comme l'autre, c'est écrit pour des rabbins en fait. Oui. Mais un rabbin qui doit parler à sa communauté de manière pratico-pratique. Ça, c'est le Mishneh Torah. Et donc, écrit en hébreu, pourquoi ? Précisément parce que c'est la langue originelle du judaïsme. Mmh. À la différence des commentaires, des gloses, des géonymes, qui étaient écrites en araméen. Donc, c'est plus dans son combat, encore une fois. Bon, c'est un combat quasi obsessionnel qu'il va avoir. Contre les géonymes, en disant, on arrête de parler en araméen, qui est une langue qui n'est plus du tout pratiquée. Et en même temps, des modifications et souvent un appauvrissement de l'hébreu. Donc il veut rompre avec ses gloses en araméen pour écrire en hébreu, c'est-à-dire redonner ses lettres de noblesse à l'hébreu, retrouver son souffle vital à l'hébreu.
Oui, qui en avait bien besoin. C'est vrai que ce milieu andalou a beaucoup beaucoup contribué au développement de l'hébreu comme langue autre que juste la langue de la Torah, c'est-à-dire une langue dans laquelle on peut écrire la Torah ou d'ailleurs en poésie, etc.
L'hébreu n'est pas que la langue de la liturgie, c'est pas qu'une langue liturgique, c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. Donc c'est pour cela qu'il a écrit le Mishneh Torah en hébreu. Mais par contre, le guide des perplexes, comme c'est un traité qui est écrit pour ces mêmes rabbins, mais depuis leur versant savant. Donc, il va leur écrire dans la langue de la science, qui est la langue arabe. Comme de nos jours, la langue de la science, en général, si on veut académiquement écrire et être lu, on écrit en anglais.
Oui.
Et non pas dans nos langues français, allemand. Donc, là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il va écrire en arabe, tout simplement, parce que c'est la langue scientifique du bassin méditerranéen. C'est pour pouvoir être lu par le plus grand nombre.
D'accord. Et il sera lu quand même aussi par les savants, par les philosophes musulmans ?
Alors, par les philosophes musulmans, je ne sais pas trop, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, il va être lu par des théologiens chrétiens, puisqu'il va passer en Occident, par l'intermédiaire notamment de Thomas d'Aquin, qui lui-même va faire connaître Maïmonide à Maître Eckhart, et qui va irriguer aussi toute la mystique rhénane, et qui elle-même va y diriger la philosophie allemande, Leibniz, Mendelssohn, etc. Donc, il va y avoir une vraie filiation du côté occidental, chrétien, philosophique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est lorsque Maïmonide dit qu'il faut passer des contradictions, c'est-à-dire comme si, en fait, il y avait une polarité du discours ou des discours, à une méthode de divergence. C'est-à-dire, en comprenant ces oppositions plutôt comme des différences de registre ou des dimensions de lecture différentes, plutôt qu'en termes d'opposition. Et ça, c'est tout à fait, en fait, la méthode du Hatz dans l'aspect juridique musulman. Donc, il y a eu une porosité, en tout cas, il y a eu de réelles influences aussi de l'islam sur la pensée de Maïmonide.
Oui, c'est-à-dire ça lui a permis d'avoir des outils de pensée.
Oui.
Et c'est pour ça que je me dis, c'est quand même un juste retour des choses. Aujourd'hui, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, Géraldine Roux, mais il me semble que vraiment, et c'est ce que je disais au début, Maïmonide pourrait donner aux intellectuels musulmans d'aujourd'hui des outils de pensée pour à la fois avoir une vision critique de leur propre religion sans renier son caractère de révélation, tout en ayant une attitude extrêmement exigeante par rapport à la raison. Est-ce que ça vous semble bien résumé?
Oui.
Cet apport essentiel de Maïmonide.
J'irai peut-être un peu plus loin, même j'élargirai en fait au fait que Maïmonide, en tant que réformateur, en tenant ferme et l'exigence de la loi, parce qu'on ne badine pas avec la loi.
Absolument.
Et il y a un rigorisme même de la loi chez Maïmonide, tout en l'articulant à une ouverture de la rationalité, de la raison, en fait, qui prend plusieurs dimensions, plusieurs formes. Je pense que cette réforme et de la langue et de la tradition pourrait s'appliquer, disons, à la plupart des pratiques de nos monothéismes, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément réformateur chez Maïmonide qui pourrait être lu comme une sorte de vaccin anti-communautarisme.
Oui, et puis en même temps, ce qui est très fort, c'est que c'est une démarche philosophique qui ne mène pas à l'athéisme, comme vous l'avez
bien
dit
sûr.
Au début. C'est-à-dire que le problème de l'histoire de la philosophie occidentale, c'est que finalement le règne de la raison, de la rationalité, je dirais pas tellement de la raison, mais de la rationalité, a mené finalement à un athéisme, voire à un nihilisme, qui rejette absolument la question de la révélation comme étant une source possible de vérité. Maïmonide, c'est pour ça qu'il critique tellement les commentateurs traditionnels, parce qu'ils pensent qu'effectivement, leur façon d'aborder le texte religieux ne peut mener, face à quelqu'un d'un peu rationnel et un peu raisonnable, qu'à un rejet en bloc de toute la tradition religieuse.
Mais oui, bien sûr, parce que si en fait l'interprétation est close, si elle est fermée, pour Maïmonide, ces images qui parcourent qu'on appelle la Bible, la Torah, ce sont en fait des images qui ouvrent le sens. À partir du moment où on les voit de manière purement littérale, on ferme le sens en disant de toute façon telle est la vérité parce que c'est la tradition qui le dit et non pas la Torah elle-même. Pour Maïmonide, c'est une attitude suicidaire qui reprend d'ailleurs cet appel au suicide collectif dans l'épître sur la persécution. C'est une attitude suicidaire parce que n'importe quelle personne de bon sens va rejeter en bloc. Alors comment faire? Est-ce qu'il rejette uniquement sa tradition ou est-ce qu'il rejette la Torah Est-ce qu'on doit, en gros, pour dire un exposé un peu trivial, est-ce qu'on doit en fait jeter le bébé avec l'eau du bain?
Voilà.
Et c'est ce qui se passe si on en reste à une lecture figée de la Torah depuis une tradition qui ne se remet pas en question. Et c'est pour cela que Maïmonide est si critique envers ces pseudo-savants qui s'arrogent le titre de savants, mais qui en fait ne font que refermer le sens. Parce que pour lui, c'est eux qui conduisent les perplexes à sortir de leur religion, à faire une sortie et voir une sortie de route.
Toute personne avec des personnalités d'aujourd'hui est évidemment pas fortuite, Géraldine Roux. Mais justement, alors je voudrais revenir sur le mot de perplexe, qui est chez lui, alors vous allez nous dire quel est le mot en arabe, bien sûr, mais donc qui est chez Maïmonide à la fois, qui a à la fois une signification évidemment péjorative et qui en même temps devient une source de fécondité de la pensée.
Oui, perplexe, en fait, non, le titre en arabe, c'était le Dalalat al-Hayrin. Donc le guide de ceux qui sont indécis, qui ont du mal à s'orienter, qui sont surtout paralysés. C'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, la traduction française par guide des égarés.
C'est juste que c'est très joli, il faut dire.
c'est vrai que ça sonne poétique.
Ça sonne mieux que le guide des perplexes, mais bon.
Non, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est un peu plus raide.
Oui.
Mais en même temps, c'est un peu compliqué, parce qu'un égaré, il appelle un bon berger qui viendra le remettre sur le droit chemin. Et ça, c'est pas du tout ce que fait Maïmonide.
Oui, c'est pas dans l'esprit.
Surtout quand on parle de guide et d'égaré, ça voudrait dire qu'il faudrait un guide spirituel qui vienne remettre enfin ces pauvres savants perdus sur le chemin de la philosophie, les remettre enfin sur le droit chemin de la religion. Et c'est exactement l'inverse que propose Maïmonide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la traduction anglaise est The Guide of the Perplexed, et même la traduction en latin, c'était le Dux Perplexorum, donc ou Dux Notrorum. Donc, bon, je veux dire, c'est plus juste.
Il ne faut pas sacrifier la justesse sur l'autel de la poésie, je suis d'accord.
Oui, parce que là, la poésie devient une sorte, on fait l'inverse de ce que dit Maïmonide,
en fait.
Et ça égare.
Oui.
Et il s'adresse à un savant qui, là, Maïmonide le dépeint de manière très très belle dans son introduction au guide, en disant c'est un homme, en fait, je veux donner l'éveil à l'homme religieux qui est parfait dans sa religion, parfait dans ses mœurs, parfait dans sa philosophie. En fait, il est parfait partout, en gros. Et c'est en raison de ses perfections, du fait même qu'il est tant de capacités en lui-même, qu'il est paralysé. Mmh. Donc le doute ne vient pas d'une faiblesse, mais bien plutôt de sa force. Et tout le but sera de le libérer du doute destructeur pour en fait en faire un doute constructif qui ouvrira le sens. Et c'est là tout le but de son traité.
Oui, alors ce qui m'a intéressé, c'est que cette perplexité, elle est chez les mystiques musulmans, en tout cas, une étape très, très importante. Elle est à rechercher, en fait, la perplexité, puisque dans le fameux Cantique des oiseaux de Attar, par exemple, c'est quand même l'avant-dernière étape, hein, avant l'annihilation de l'ego, c'est vraiment l'étape de la perplexité, mais elle est extraordinairement valorisée dans le sens où, dans cette étape de la perplexité, eh bien, d'un coup, le paradoxe devient fécond à tel point qu'on peut dire que quelque chose est à la fois cela et qu'à la fois il ne l'est pas. C'est-à-dire que la contradiction est parfaitement assumée. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la perception, de la conception que Maïmonide a de la perplexité, Géraldine Roux?
Oui, je pense que c'est parfaitement juste. Alors, je ne sais pas si Maïmonide connaissait Attar. Pourquoi pas? Parce qu'il lisait beaucoup les philosophes arabes. Alors, arabes de langue arabe, c'est-à-dire qu'il écrivait en arabe.
Oui, alors, je ne sais pas si
Attar... Le problème, c'est qu'il était persan. Oui, c'était persan, donc, oui. C'est pour ça que je ne sais pas s'il connaissait. Mais en revanche, il connaissait quand même bien Avicenne.
En tout cas, ils sont exacts contemporains, Attar et...
C'est ça. Oui. Et lui-même avait été influencé par Avicenne, par Al-Farabi, donc c'était plutôt par des philosophes. Alors,
oui,
bon, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a pu avoir des traductions qui... Je ne sais pas du tout.
Non, en fait, je crois qu'ils ont tous les deux lu Avicenne, en fait.
Voilà, en gros, c'est ça. C'était un peu mon idée. Mais bon, absolument. Après, maintenant, voilà.
Oui, tout
c'est,
à fait.
Mais ce qui est effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que pour Maïmonide, c'est bien la contradiction qui mène la prise de conscience et le fait d'assumer ces contradictions qui mène à la sagesse. Donc, ce n'est pas le rejet, le refoulement. Bon, c'est un terme peut-être un peu contemporain, mais c'est pas le refoulement des contradictions qui mènent à la sagesse, loin de là, c'est vraiment le refoulement du religieux borné, selon Maïmonide, ni le fait d'appareiller ailleurs, mais le fait d'assumer sa contradiction. Et c'est ça qui va ouvrir le sens, au lieu de dilacérer le cœur, pour reprendre cette expression de Maïmonide, elle va permettre en fait de le reconstruire au contraire. Et là, c'est très intéressant parce que dans le chapitre 350, Maïmonide fait une référence à l'épreuve du désert. Lorsque les Hébreux ont fui, évidemment, l'Égypte.
Oui, c'est très beau, ça, vous le citez, oui.
Et ils font l'épreuve du désert où il y a des stations. Et pour lui, il dit oui, que c'est vrai que ça peut paraître étonnant que ce peuple ait pu errer pendant 40 ans dans un mouchoir de poche.
C'est vrai.
Il faut être désorienté, ils étaient vraiment désorientés. Mais il dit qu'il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que ces 40 ans, c'est-à-dire le fait que ce soit une génération entière qui passe sa vie dans le désert, l'épreuve du désert est nécessaire. Il y a des stations qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et ça, c'est tout à fait soufi même, hein, comme expression. Mmh. Et le mot arabe qu'il emploie, d'ailleurs, c'est un mot soufi. Donc là, s'il y a des choses, je pense qu'il y aurait à travailler. Et je pense qu'effectivement, il y a une porosité, encore une fois, de la poésie ou de la mystique musulmane sur la pensée de Maïmonide.
Absolument, mais il me semble quand même que c'est plus la mystique qu'on appelle de la raison, enfin de rationnel, que la mystique de l'amour, évidemment, parce que Maïmonide, vous dites d'ailleurs à un moment donné qu'il est totalement contre même la poésie, enfin c'est quelqu'un qui est assez réfractaire à l'expression poétique des vérités, il est quand même plus du côté de la raison.
Mais en même temps, il est très contradictoire, parce que son propre fils
va
introduire des pratiques soufies dans la liturgie, dans les synagogues. Et il va y avoir toute une tradition soufie des Maïmonides sur plusieurs générations.
Oui, avec la répétition des noms de Dieu, la question du souffle, etc. Oui, il y a des exercices que vous évoquez. Mais bon, c'est son fils. Peut-être que son fils a été un peu plus...
Il y a des choses étonnantes dans le guide. Si on lit bien, il y a des choses un peu étonnantes, notamment des exercices méditatifs dans le chapitre 351,
oui,
juste après la parabole du palais, et de vrais exercices méditatifs pour en arriver à invoquer, on ne sait pas trop, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose pour provoquer des intuitions. Il emploie le mot conjecture, conjonction, donc il y a quelque chose, en fait, en tout cas, d'un élan qui n'est pas purement rationnel, d'un rationalisme...
Borné, non, ça certainement pas.
Évident.
Et d'ailleurs, la visée dernière aussi de toutes ces pratiques, parce que l'éthique est une dimension évidemment fondamentale dans l'œuvre de Maïmonide, il n'y a pas de... Vous avez dit, il y a un rigorisme de la loi, mais il y a aussi un rigorisme éthique, personnel, un rigorisme ascétique, parce qu'il est quand même quelqu'un qui recommande fortement une vie pour le moins sobre, sinon très, très ascétique, à la fois pour des raisons d'ailleurs médicales que pour des raisons spirituelles. Donc, toutes ces pratiques, aussi de méditation, de prière, sur lesquelles il a beaucoup de choses à nous dire, ont comme visée la préparation du monde d'après. Alors, parlez-nous de ce monde d'après qui est si important, si pivotal, si j'ose ce mot, dans la philosophie, dans la pensée, en fait, de Maïmonide.
Oui, c'est très intéressant. Le but ultime pour Maïmonide n'est autre que la connaissance elle-même de la Torah qui s'identifie à l'amour de Dieu.
Oui, donc, d'où l'amour qui vient, là.
C'est ça, et l'amour qui est là, dont on peut en faire l'expérience, là maintenant, pas dans le monde d'après. Mmh. C'est bien l'amour de Dieu comme connaissance de Dieu. Là-dessus, je veux dire, il va influencer massivement Spinoza. Hein. Et le monde d'après, pour lui, de toute façon, on ne vivra dans le monde d'après qu'en fonction de ce qu'on a vécu dans cette vie-là. Donc en fait, c'est en vivant bien maintenant, là maintenant, qu'on prépare le monde d'après, mais peu importe en quelque sorte ce qui se passe dans le monde d'après. Par exemple, il dit un ignorant, quelqu'un qui vit uniquement dans ses passions et ses pulsions dans cette vie-là, il sera pareil, il sera tout aussi désorienté dans le monde d'après que dans ce monde-ci. Alors, c'est comme s'il n'y avait pas de progrès après. Donc, tous les progrès sont réalisés dans cette vie-là et advienne que pourra, si on peut dire. Alors,
il faut quand même le préparer, c'est-à-dire justement ce travail de la raison fait que du coup, dans le monde d'après, on sera aussi dans un travail de la raison. Mais c'est vrai que la raison doit se développer ici.
C'est ici, maintenant. Voilà. Peu importe ce qui se passe dans le monde d'après, tout ce que nous avons à faire, c'est à construire maintenant. On construit maintenant pour le futur. Mais peu importe le futur, parce que si on construit pour vivre bien après, dans ce cas-là, la connaissance n'est plus désintéressée. Elle est parfaitement intéressée. Et ça, Maïmonide, il est très tatillon là-dessus.
Oui, et d'ailleurs, le texte que j'ai choisi de lire, justement, c'est sur la finalité de la sagesse, qui est juste l'amour de la sagesse.
Absolument.
Voici donc ce que dit Maïmonide comme parabole de la sagesse. Suppose qu'un petit garçon soit conduit auprès d'un instituteur pour qu'il lui enseigne la Torah, et cet enseignement est pour celui-ci un grand bien pour son accession à la perfection. Mais en raison de son jeune âge et de la faiblesse de son intelligence, il peut ne pas comprendre l'éminence de ce bien qui lui permet d'atteindre la perfection. C'est pour cette raison que l'instituteur lui dit « Lis, et je te donnerai des noix ou des figues, ou je te donnerai un peu de miel. » Grâce à cela, il lit et fait des efforts, pas pour l'objet de sa lecture, parce qu'il n'en connaît pas le mérite, mais afin qu'on lui donne cette nourriture. Lorsque son intelligence sera perfectionnée davantage et qu'il méprisera également cette récompense, il placera son esprit sur quelque chose de plus important, et alors son maître dira « Apprends cette péricope ou ce chapitre, et je te donnerai un ou deux dinars. » C'est pourquoi il lit et fait des efforts pour gagner cet argent. Lorsque sa formation sera parfaite, que la leçon sera facile à ses yeux et qu'il saura que cette chose est facile, il désirera ce qui est important pour lui, et son maître lui dira « Apprends pour être rave et juge, et que les hommes t'honorent et se lèvent devant toi, qu'ils exécutent tes ordres, et que grandisse ton nom de ton vivant et après ta mort. » Tout cela est indécent. Et pourtant, cela est nécessaire en raison de la faiblesse de l'intelligence humaine qui place la finalité de la sagesse comme une chose différente et extérieure à la sagesse. Un mot, Géraldine Roux, sur ce passage qui est très beau et qui dit vraiment que la sagesse, finalement, doit être recherchée pour elle-même. Et tant que nous cherchons autre chose, un autre avantage, c'est que nous sommes encore que de petits enfants qui n'ont rien compris.
Mais en même temps, en fait, le fait d'être des petits-enfants qui n'avaient rien compris, que Maïmonide pose les bases de ce qui deviendra plus tard l'éducation positive.
Bien sûr.
C'est pas par les coups de bâton qu'on apprend, mais plutôt par la valorisation de l'élève. Parce qu'un petit enfant, s'il n'est pas valorisé, eh bien, en fait, il perd courage aussi.
Bien sûr. Il faut qu'il ait envie
et puis garder confiance aussi en ses propres forces. Alors voilà, donc c'est l'éducation, mais je pense que c'est exactement là que se situe cette nostalgie de la sagesse qui va parcourir toute la vie de Maïmonide, c'est-à-dire déplorer ce qui aurait toujours dû être. Certes, on aurait toujours dû rechercher la sagesse pour elle-même, mais dans les conditions telles qu'elles sont, eh bien, il y a toujours une série de médiations, de différements, de moyens et d'intermédiaires. Et c'est peut-être là aussi tout l'aspect stimulant de cette recherche elle-même.
Absolument. Et c'est vrai qu'en vous lisant, Géraldine Roux, on se souvient nous-mêmes que nous avons cette nostalgie de la sagesse et que peut-être l'œuvre de notre vie, c'est de la rechercher. Merci beaucoup d'être venu évoquer avec nous ce personnage si attachant et si exigeant à la fois.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions du Seuil, Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse. C'était les discussions du soir par Lélie Anvar. Attaché de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Delphine Baudet. Excellente soirée à tous à l'écoute de notre antenne.